On accueille Bernard Rentier, recteur honoraire de l'Université de Liège. Il y a 3 ans, ce n'était pas encore honoraire et tu étais déjà là. Mais là, c'est une approche légèrement différente, hein, puisqu'il va bien s'agir non pas de présenter Orbi, mais de parler de la manière dont Orbi améliore la visibilité, fait augmenter la visibilité de l'institution, des chercheurs, de leurs publications.
Donc j'étais effectivement ici à la précédente édition pour vous expliquer ce qu'était Orbi, notre bébé qui est le dépôt institutionnel de l'Université de Liège. Et je vous avais expliqué, en tout cas ceux qui étaient là, de quoi il s'agissait et comment ça fonctionnait. Alors il m'a paru intéressant aujourd'hui, puisqu'on parlait de retombées sur la visibilité des chercheurs, c'est d'essayer de faire le point sur ce qui se passe chez nous. Alors effectivement, je ne suis plus à la manœuvre, ce qui veut dire que je viendrai... Ça va s'arrêter, vous ne tracassez pas la prochaine fois. Si je suis là, ce sera pour parler d'autre chose. Et ceux qui étaient là hier ont compris que je suis passé déjà à un stade beaucoup plus radical que le gentil Green Open Access. Hein. Mais bon, j'espère que quand je reviendrai une prochaine fois, on pourra faire le point sur un mode de communication scientifique qui, je pense, qu'on l'aime ou non, n'aura plus rien à voir avec ce que nous faisons depuis 200 ans. Alors, pour parler de cette visibilité, voilà, en 2005, je suis élu recteur après 8 années de vice-rectorat chargé de la recherche et des bibliothèques. Et donc, une de mes premières actions est d'essayer de m'arranger autour de moi pour qu'on fasse un dépôt institutionnel et qu'on le fasse tourner de manière un petit peu musclée. En 2007, le conseil d'administration décide du lancement d'un essai pilote avec un certain niveau de coercition, comme vous allez le voir. Et un an et demi après l'essai pilote, c'est la mise en service du système. Alors, ce qui est caractéristique, c'est qu'il s'agit d'une obligation. Alors, je sais que ça fait hurler tout le monde, mais... Nous, en Belgique, on a un gros avantage, c'est qu'on n'a pas de CNU. Et donc, on n'a pas non plus de... On n'a pas un système jacobin d'organisation. Et donc, nos universités sont beaucoup plus autonomes que ne sont les universités françaises, il faut bien le reconnaître. Et donc, dans les mains du recteur et de son équipe et du conseil d'administration, plein pouvoir sur toute une série de choses. Nomination, promotion, octroi de bourses, octroi de subsides, octroi de personnel, octroi de locaux, etc. Maîtrise totale. Je vous le souhaite. Alors, c'est une obligation qui concerne toutes les publications et qui les exige en texte intégral depuis 2002. Donc on est en 2007 quand on dit ça, c'est 5 ans en arrière, c'est raisonnable. Le vrai truc, c'est que seules les publications qui seront prises en compte pour les évaluations internes sont celles, et donc crédit, promotion, tout ce que je vous ai dit, sont les publications qui sont dans le dépôt institutionnel. Donc quand on reçoit le CV, on prend le CV, la liste des publications qui accompagne va dans la poubelle et on demande à Orbi de sortir la liste des publications. Et il fait ça très très bien, il fait ça beaucoup mieux que les intéressés qui ont une fâcheuse propension à mélanger tout. Hein. Alors vous avez des papiers dans Nature et puis vous avez des articles les comptes rendus d'une conférence qu'ils ont donnée au Rotary Club de leur patelin un peu avant. Donc les choses vont très bien en ce sens que voilà, le 23 mai 2007, c'est devenu quelque chose d'obligatoire. Et d'autre part, la condition express de l'analyse des dossiers qui se fera uniquement à partir d'Orbi. Ça laisse le choix de l'éditeur et ça permet de respecter, et même c'est obligatoire de respecter, les embargos qui sont exigés par les éditeurs, et c'est vrai que 8 ans après, non combien oui, 8 ans après, je ne me reconnais pas dans cette gentillesse-là. orbite donc aujourd'hui c'est plus de 126 000 dépôts avec quelques caractéristiques intéressantes. Vous voyez que donc il y a une évolution en rouge des références avec le texte intégral et en bleu sans le texte intégral. Donc il faut comprendre que le texte intégral n'est exigé que pour les articles de périodique. Pour tout le reste, ce n'est pas obligatoire. Et pour tout ce qui précède 2002, ça n'est non plus pas obligatoire. Donc ça vous explique cette différence. Et cette différence se maintient à peu près à 60% de manière très, très régulière. On va le voir tout de suite, d'ailleurs. Mais je vous fais remarquer la chose que je fais toujours remarquer parce que je l'adore. C'est, c'est mai 2010, la première salve d'évaluation pour les promotions. Donc on voit l'effet direct sur le dépôt, hein, c'est tout à fait manifeste. Il y a eu ça 2 ans après, c'était moins manifeste, mais on le voit quand même encore. Et puis 4 ans après, c'est perdu dans le brouillard. Donc ça veut dire que les gens ont vraiment pris l'habitude et que les hautes, la partie la plus pentue de la courbe, correspond à l'envie de mettre toutes ces publications là-dessus. Il faut dire que aussi, ce qu'on a fait, on a eu des petits trucs du genre sur le répertoire institutionnel. Si vous allez à l'Université de Liège, répertoire, Monsieur Machin, vous avez son nombre de publications. Alors, vous savez que je déteste le nombre de publications pour l'évaluation, mais ça, c'est quand même un méga incitant. Hein. Quand vous avez Monsieur un tel avec 30 ans de carrière, zéro publication, c'est embarrassant comme tout. Même sa belle-mère peut venir voir, enfin, c'est l'horreur. Donc on a essayé d'arranger ça de cette manière-là. J'ai été à une période qui représentait à peu près dans la zone où vous voyez le pointillé, j'ai été président du Fonds national de la recherche scientifique en Belgique, et j'ai obtenu que le Fonds national s'ajuste sur notre système liégeois. Et on voit alors à partir de janvier, là c'est pas tout à fait le même moment, on voit arriver aussi les petits pics de dépôt. Je crois qu'il y en a même encore un. Donc voilà. Autre avantage de ça, c'est que le Fonds national s'étant aligné sur nous, les autres universités belges l'ont fait aussi, forcément. Puisque ça présentait alors un avantage pour les chercheurs qui ne doivent déposer qu'une seule fois dans un système compatible. Alors ici, ça vous montre, nous sommes à 62% de texte intégral. L'engouement du début a un peu fléchi, et puis j'ai commencé à paniquer, mais ça s'est stabilisé à 60% à peu près. Bon, attention à l'étiquetage. Donc nous acceptons toute une série de choses. Le pur jus, c'est les 43%, ce sont les journaux scientifiques. Puis vous avez en vert là, tout ce qui vient dans des congrès, des comptes rendus, des abstracts, des chapitres de livres, des discours, conférences et autre chose. Donc vous voyez qu'au-delà de ces 43%, il y a beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est le choix et la décision du chercheur. Nous ne l'influençons pas. Et s'il a envie de mettre dans le dépôt institutionnel des choses qui n'ont rien à voir avec sa science, c'est tant pis pour lui. Et donc chacun prend sa responsabilité par rapport à ça. Sachant que l'outil est un outil de visibilité où tout le monde peut aller et tout le monde peut juger de votre carrière scientifique en regardant ce que vous avez fait. Si vous mettez beaucoup de choses nulles, vous apparaîtrez relativement nul. Et donc, je crois que tout le monde a bien compris ça. Et nous voyons très peu de junk, très, très, très peu de dépôts qui n'ont rien à voir avec la recherche scientifique. Donc ça, c'est évidemment aussi extrêmement positif, je trouve, quand on analyse les choses. Ici, petite anecdote, c'est l'évolution de nos téléchargements des documents. Vous voyez que ça se passait très bien. On avait entre 50 et 100 000 dépôts mensuels. Et vous voyez que tout d'un coup, il s'est passé quelque chose de tout à fait catastrophique. Ici, je ne sais pas si j'ai une petite lumière, là, je devrais avoir. Voilà, ici, ça a été la catastrophe de l'été 14, vous voyez, 2014. Hein. Donc, on a eu vraiment une grande catastrophe, là. Et on a essayé de savoir pourquoi il y avait si peu de téléchargements pendant l'été. Est-ce que tout d'un coup, il faisait beau, tout le monde était parti? Non, c'était tout simplement parce que l'algorithme de Google Scholar avait changé. Et donc, on s'est aperçu que, en fait, la chute était liée à ce que nous pouvions repérer comme, comme visite due à travers Google Scholar. Donc, c'est très, très important de le savoir. Nous avons eu une rencontre avec les ingénieurs de Google et ça s'est arrangé. C'est à la fois très réconfortant et extraordinairement inquiétant. Ça veut dire que par une simple modification de l'algorithme de Google, vous pouvez tripler ou, dans notre cas, décupler votre nombre de visites. C'est plus que des visites, hein, ce sont des téléchargements. Enfin, quand vous voyez ça, ça veut dire quand même qu'il y a entre 8 et 10 000 téléchargements, ça dépend un peu des mois, par jour, donc c'est dimanche et samedi compris. Enfin, c'est complètement hallucinant quand on voit ça. Donc, on peut prévoir que la visibilité du chercheur va être augmentée. Alors, quel est l'indice de compliance, hein, donc de conformisation au règlement? Vous voyez l'évolution 2012, 2013, 2014, nous sommes pratiquement à 90% et nous allons probablement franchir les 90% cette année 2015. Ceci est une étude qui a été réalisée par nos collègues québécois qui ont en fait fait une analyse dans Web of Science et dans Scopus pour voir les articles de l'Université de Liège. Et puis, ils ont regardé dans le dépôt de l'Université de Liège et ils ont trouvé qu'il y avait quand même plus dans WOS et dans Scopus que dans notre dépôt à nous. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même là 10% de gens dont WOS et Scopus repèrent les articles, mais qui ne les ont pas mis dans Orbi. Du coup, nous, on les poursuit, évidemment. Donc, on leur dit, mais écoutez, c'est fou. Et donc, petit à petit, ça se résorbe et ça augmente. Il y en a qui restent durs à cuire complètement et qui s'en fichent et qui n'en ont rien à faire de notre dépôt et qui sont contents d'être dans Scopus. Hein. Il faut toujours faire plaisir à Elsevier à un moment ou l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, forcément, la machine refusant tout ce qui est non accompagné d'un texte intégral depuis 2002, depuis 2002, c'est 100%. Alors, j'avais déjà raconté il y a 2 années la petite anecdote du fait qu'il y a quand même des tricheurs et donc il y a des gens qui mettent des PDF qui sont, sur lesquels il est mis « coming soon hein. ». Donc, il y a des faux papiers là-dedans, mais pas beaucoup. Parce que nous, on les repère parce qu'ils sont très légers, sont des PDF hyper légers. Et alors, on me les réfère. Et moi, en tant que recteur, ce que je faisais, c'était que je écrivais une lettre personnalisée à chacun pour dire « c'est franchement stupide d'avoir quelque chose de faux dans votre CV, et ça ne fait du tort qu'à vous ». Et en général, ça avait un effet foudroyant et rapide. En attendant, donc voilà, on a vraiment le maximum possible dans les articles depuis 2002. Avant 2002, on en a quand même 41%. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas obligés, mais le mécanisme a été compris et maintenant, les gens sont en train de mettre leurs articles non obligatoires d'avant 2002, ne serait-ce que pour être sûr d'avoir une liste complète quand on l'a fait sortir de la machine, bien entendu. Hein. C'est vexant que tous ces travaux d'avant 2002 n'apparaîtraient pas. Et puis, mais là, encore plus intéressant, 50% de tout ce qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas article de périodique depuis 2002 ou même avant 2002. Donc là, on a vraiment une indication du fait que les gens jouent le jeu. Et donc ça, c'est ce que je considère comme un élément positif. Alors, il y a un bénéfice clair qui est le lectorat. C'est une récidive, ça. Oui, il y a un magnifique équilibre des tablettes qui fait que c'est d'un côté ou de l'autre. Hein, voilà. Alors, le lectorat, donc... Ça, je pense que c'est très important qu'on comprenne bien, et c'est ce que nous avons essayé de faire comprendre à nos chercheurs, c'est que quand quelque chose se trouve sur Orbi, il y a deux possibilités. Une, c'est fermé, et il faut obtenir le tirer à part, si vous voulez, sur demande, hein, ce qui est tout à fait régulier, pendant l'embargo. Et puis, après l'embargo, ou s'il n'y a pas d'embargo, ben, c'est libre. Hein, et c'est ouvert d'emblée ou après l'embargo. Beaucoup de chercheurs oublient d'ouvrir après l'embargo et on leur explique ce qui arrive par rapport à ça. Ça, c'est la différence entre le nombre de téléchargements de vos ouvrages selon le fait que vous le laissez en accès restreint ou en accès ouvert. Et il y a une différence de 18 fois. Pour obtenir ce 18 fois, j'ai supprimé toutes les visites et tous les téléchargements qui sont faits en interne dans l'université de Liège. Quand on ajoute les internes, le rapport est de 30 fois. Donc la visibilité est terriblement augmentée. Et le simple fait qu'il faille demander réduit déjà de près de 20 fois la volonté du lecteur d'aller jusqu'au bout de sa démarche. C'est quand même c'est terrifiant, bien sûr, du point de vue de l'obstination de celui qui veut avoir l'info. Mais le réalisme nous pousse à bien nous rendre compte de ça et à faire attention, donc à ouvrir dès que possible. Alors, il y a évidemment un impact sur les citations qui est tout à fait clair. Selon que nous sommes seulement sur Scopus ou bien aussi sur Orbi, vous multipliez par deux. Et si vous faites la même analyse sur WOS, c'est exactement le même ratio. Donc, en fait, on est deux fois plus cité si on est sur le dépôt institutionnel et pas uniquement sur les dépôts internationaux. C'est une surprise. Moi, je n'aurais pas vraiment pensé ça, mais c'est une réalité. Alors, ceux qui ne sont pas dans Scopus et dans WOS, il y a beaucoup de sciences humaines et sociales et beaucoup de travaux publiés en français. Là, l'effet Orbi est majeur. Donc, les gens ont leur visibilité augmentée par un taux phénoménal s'ils publient en français. Ça, c'est tout à fait clair de nos investigations. Alors, une chose qui est importante à savoir aussi, le nombre de citations par article. Donc ici, nous ne sommes plus sur des articles en particulier, mais nous sommes en gros sur l'Université de Liège. Si on compte le nombre d'articles et le nombre de citations, on a une progression qui est logique. Hein, sur un an, sur deux ans, sur trois ans, c'est de plus en plus cité, c'est normal. Mais beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, en tout cas sur la phase un an, deux ans, si c'est disponible en ligne sur Orbi. Donc ça, c'est assez convaincant. Accroissement du lectorat, augmentation des citations, ça, je viens d'en parler. Mais ça permet d'avoir un inventaire personnel, mis à jour en permanence. On obtient une foison de données statistiques, les rapports dynamiques, une intégration d'un widget quand on a un site web, etc. Il y a une interopérabilité avec le Fonds national de la recherche scientifique, ça c'est très important. Et alors, ça c'est dans l'intérêt du chercheur, dans l'intérêt de l'institution, et parfois ça m'est reproché, c'est que nous avons des rapports institutionnels bien constitués et que ça donne une visibilité institutionnelle. Donc, maintenant, nous avons fait une enquête de satisfaction qui a porté sur à peu près 2500 personnes. Nous avons 604 réponses, ce qui est un taux intéressant pour une enquête de satisfaction. Les trois quarts ont souhaité rester anonymes, et vous voyez le taux de satisfaction avec les très satisfaits en bleu, les satisfaits et les insatisfaits. Je vous dis tout de suite que dans les insatisfaits, pour être vraiment correct, certains ont donné une cote générale insatisfait et leur commentaire était qu'ils étaient enchantés. Donc il y a encore des gens qui doivent apprendre un petit peu à manipuler un formulaire d'enquête et pas confondre 1 avec 5 ou 5 avec 1, mais bon, voilà. C'était une occasion de les repérer. Malheureusement, comme il y avait beaucoup d'anonymes, je ne sais pas de qui il s'agit. Oui. Non. Ça, on n'a pas trouvé dans l'autre sens. Comme quoi, les gens qui sont très satisfaits sont les plus malins. Donc, Parmi les insatisfaits, il s'est trouvé un certain nombre aussi de gens qui n'ont jamais publié. Parce qu'on a quand même la curiosité de poser la question, avez-vous déjà publié ? Donc il y a des gens qui disent non. Êtes-vous content ? Non. Ah. OK. Question suivante, voulez-vous un peu de café ? Non. Alors, en quête de satisfaction, toujours, elle nous révèle qui dépose. À 82%, c'est le chercheur lui-même. Et ça, c'est ce que nous voulions. Et ça, pour moi, c'est une réussite absolue. Parce que nous voulons que le chercheur soit au centre de son boulot. Ou en co-auteur, bien entendu, ça, pas de problème. Mais nous autorisons des mandataires et nous pensions que tout le monde allait refiler ça à un mandataire. Mandataire, ça peut être une secrétaire enfin, peu importe, ça peut être quelqu'un, condition qu'on en ait demandé l'autorisation. Et donc, le mandataire, seulement dans 8% des cas, dépose. Alors, les raisons d'être mécontent, pour les fameux mécontents que vous avez vus, c'est d'abord, ça ne m'intéresse pas, votre truc. Deuxièmement, vous me forcez à le faire, j'aime pas ça. Et troisièmement, vous êtes tellement vicieux que vous allez sûrement utiliser ça pour faire de l'évaluation. Et je ne peux pas dire le contraire, puisque c'est le principe de la coercition ici. Hein. Donc c'est lié, la coercition et l'outil d'évaluation. La seule chose que je fais remarquer, c'est qu'ils seront évalués quand même, mais au moins ici, ils seront évalués sur une base rigoureuse. C'est quand même tout à fait important par rapport à être évalué n'importe comment. Probablement que certains préfèrent être évalués n'importe comment. Mais pour ceux qui ont un peu de soucis de rigueur, c'est important. Et alors, les raisons d'être positifs, ou plus exactement la question que nous posions, c'est pourquoi utilisez-vous Orbi ? Alors, 63% parce que ça donne de la visibilité à mon travail. 61%, ça, je suis super content, c'est je suis pour l'open access. Yes ! Et puis, 49%, c'est parce que vous me l'ordonnez, chef. Hein ? Bon, donc voilà. Il y a un peu de tout et c'est intéressant. Et j'en termine avec une répartition, vous voyez, relativement similaire, mais quand même indicatrice entre ce que nous appelons, nous avons pas ce que vous appelez enseignants-chercheurs, nous avons les académiques, c'est les professeurs, hein, et puis il y a les chercheurs permanents, et il y a les chercheurs temporaires, il y a les doctorants, il y a le personnel administratif, technique et ouvrier qui pour le personnel technique, peut participer aux articles de temps en temps, et pour les administratifs, peuvent servir de mandataire. Et puis, autre, ça, c'est très intéressant, il y en a peu, je vous le dis tout de suite, mais ça, c'est les gens qui n'arrivent pas à définir où ils se situent. Il y en a. Le premier qui dit, oui, mais on est en Belgique, gare à lui. Hein. Donc, il y a des gens qui ont du mal à se définir. Mais bon, dans l'ensemble, vous voyez que c'est la même tendance. Vous voyez que les doctorants sont évidemment ceux qui sont les plus chauds sur le système. Et les académiques, curieusement, sont ceux qui ont la plus grosse proportion de très satisfaits. Voilà. Donc, peut-être qu'avec l'âge, voilà, ça change. Alors, je dois beaucoup à l'équipe qui s'est occupée de ça parce qu'il continue à travailler. Et Paul n'est pas là aujourd'hui parce qu'il ne pouvait pas y être, mais il le regrette bien. Il vous donne son bonjour pour ceux qui le connaissent. Et je vous remercie, évidemment, pour votre attention.
Merci beaucoup, Bernard. Alors, du temps pour une ou deux questions. On n'a dit pas plus de deux questions, sans ça, on se couchera trop tard. Ici, Claude.
Est-ce qu'il y a des services associés au dépôt ? C'est-à-dire, quels sont les services qui sont associés au dépôt ? En dehors de rendre visible, est-ce qu'il y a d'autres services qui sont associés ?
Oui, donc il y a beaucoup de services associés. Donc, je dirais que celui qui est peut-être le plus réducteur d'efforts pour le chercheur, c'est le service d'océérisation. Donc, quand un chercheur ne dispose plus que de la version définitive éditeur de ses anciens articles, il peut nous le confier, on fait un OCR et on lui refait un manuscrit. Donc ça c'est lourd et c'est un service que les gens apprécient bien. Il y a aussi évidemment des services de formation à l'utilisation d'Orbi, à l'exploitation de tous les avantages d'Orbi. Il y a tout ce qui est alors tout le volet des statistiques, des informations sur ce que deviennent leurs articles, par qui ils sont lus, par qui ils sont cités, comment ça évolue dans une, enfin quelle est la vie de l'article. Et alors ça c'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a des articles anciens qui revivent. Et donc moi j'ai le cas personnellement d'un article de 85 qui a refait une deuxième vie au moment où la communauté scientifique était prête à se mettre à croire à ce que je racontais en 85. Donc ça arrive.
Merci. Une deuxième question ? Plus de questions ? Marie ? Non, tu as le droit de poser des questions à un intervenant sur deux maintenant.
Est-ce que vous avez aussi des outils comme de suivre au niveau des téléchargements l'origine ?
Oui,
parce
bien
que,
sûr.
Voilà, parce que moi, il y a une statistique qui m'a vraiment impressionnée. Je crois que ça doit être PLOS, quelque chose comme ça, où ils ont une majorité de citoyens. Dans l'ordre, c'est les citoyens qui chargent le plus. Ensuite, ce sont les chercheurs. Et à la fin, ce sont les entreprises.
Ah oui.
Ça me semble être vraiment un truc très important à savoir.
Oui.
Ça.
Si vous allez sur le site Orbi de l'Université de Liège, donc vous avez deux chances. Si vous tapez Orbi, la première, vous arrivez chez le pape et l'autre, vous arrivez chez moi. Enfin, où c'était chez moi avant. Et vous avez toute l'information. Donc, sur la page, il y a toute série d'informations. Puis à droite, il y a autres statistiques. Vous cliquez là-dessus, alors vous avez toutes les statistiques, y compris par pays. Donc ça, c'est en général pour Orbi. Et chaque individu peut avoir ça pour chacun de ses articles. Donc quand nous allons sur ce que nous appelons MyOrbi, vous pouvez malheureusement pas y aller, mais nous pouvons y aller. Et nous retrouvons nos articles, l'état dans lequel ils sont, et alors une montagne de statistiques de toutes sortes sur qui a lu, où, dans quel pays, avec un mapping du monde et des repérages, etc. Donc c'est super bien fait et ça fait partie de tout ce qui donne cette attirance parce que je pense que c'est pas simplement le fait que c'est coercitif, que les gens le font. Beaucoup de gens nous ont dit, si vous supprimiez le système aujourd'hui, nous serions très mécontents. Donc ils ont vraiment adopté le bébé. Il fait partie de la famille Université de Liège.
Merci beaucoup Bernard.